La différence énorme qu'il y a avec Nantes et Tours, c'est que quand vous voyez ces villes d'en haut, autour de Nantes et autour de Tours, il y a des bocages, des marécages, de la campagne, de l'agriculture, à foison. Et voilà. Donc, on a un arrière-plan rural et une ville. Et puis, du coup, à même échelle, les ambiances urbaines de Nantes et de Tours sont incroyablement calmes par rapport à celles de Genève. La différence de Genève, c'est son énorme roue à côté. Finalement, cette attractivité économique qu'on a probablement tous souhaité, elle nous donne du boulot, c'est intéressant, etc. Mais qui fait que, vu qu'on n'a pas assumé avec le logement qu'elle devait créer, bah, on a exporté notre problème de logement sur la France. Nous, les Suisses, avons fait ça. On a laissé faire ça. Et on en a pris conscience, c'était déjà fait. Donc là, ça crée une énorme différence de tension dans les centres-villes, le fait d'avoir cette couronne qui va se ruer sur le centre, ou d'avoir, au contraire, juste de la campagne.
Mais vous prenez des villes, peut-être pas Tours, mais des villes un petit peu plus petites, par exemple, comme Chalon. Vous avez tout un tas de villages autour, avec un nombre considérable de petites maisons, de petites villas, et tous ces gens, le matin, ils vont travailler en ville. Ce qui provoque aujourd'hui le grand problème des gilets jaunes.
Exactement,
qui se plaignent parce que les routes sont étroites, dangereuses, et le prix de l'essence est très très élevé. C'est pas non plus la solution.
Et ils s'embouteillent comme tout le monde, et ils passent des temps fous dans les transports.
Parce qu'il y a aussi, vous avez pas cité le problème de l'argent, mais il faut aussi voir. Les gens sont obligés d'aller habiter à l'extérieur aujourd'hui. Parce que les prix sont tellement élevés en ville que vous ne pouvez pas vous payer un appartement.
Et voire pire, ça peut être... c'est très lié avec le social. J'ai fait de l'urbanisme et du social, c'est pas par hasard. C'est un peu les deux facettes d'un même phénomène.
Mais il ne faut pas oublier urbanisme et social, ça c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier les finances derrière.
Oui, aussi.
Parce qu'alors... C'est les finances qui gèrent tout.
Mais non.
C'est-à-dire qu'on les laisse.
Je suis totalement d'accord avec
ça. Ça suffit, ça. Mais oui.
Parce qu'en fait, c'est en perpétuant ce discours que d'abord il faut penser aux ressources financières qu'on on se met déjà des freins. Exactement. Alors que quand on dit, OK, on va y penser, mais d'abord on imagine, on crée, on souhaite, on désire, on veut. Et du coup, j'ai une question. Parce que vous avez commencé par parler de la journée sans voiture et c'était la photo sur le pont du Mont-Blanc et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut concrètement, sans parler d'argent, parce que là, il n'y a pas besoin d'argent, pour refaire des journées sans voiture à Genève? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le processus à mettre en route pour qu'on puisse faire ça régulièrement?
Oui, moi je trouve aussi.
Une fois par semaine. Parce que je vais juste vous donner un exemple. Tirana. Tirana, qui est la capitale de l'Albanie, l'Albanie qui a quand même été un pays avec 50 ans d'autarcie, le maire de Tirana, moi j'ai eu l'occasion de l'écouter dans une conférence, et ce gars, il nous explique comment un jour il a arrêté son équipe municipale en disant bon, les brainstorming là, ça suffit les gars, on va dans la rue et on dit on essaye une journée sans voiture. Petite grogne de la population, ils ont fait une journée sans voiture et les gens sont revenus à la mairie le lendemain en disant « Quand est-ce qu'on recommence ?» Et maintenant, le centre-ville de Tirana est débarrassé de ses voitures, alors qu'ils pouvaient aussi avoir une aspiration, une espèce de mode. Voilà, ils se sont ouverts, alors le capitalisme, le mode économique, on a des voitures, donc on est riche, enfin, cette logique un peu, voilà, quand un pays s'ouvre. Et il a essayé. Et il a gagné. Il y a des pistes cyclables partout. Il n'y a plus de voitures dans le centre-ville. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut à Genève pour qu'on fasse ça?
Il faut voter pour un Conseil d'État qui va défendre cette
idée-là. Pourquoi ça dépend du Conseil d'État?
Parce que, alors ça, c'est si tu me permets, Giovanna, ou tu complètes si je dis des sottises, mais c'est quand même une question de répartition légale des compétences et des pouvoirs entre communes et cantons. La commune, qui est plutôt culturellement... Parce que c'est la ville-centre, culture de ville-centre, elle a envie de créer un plateau piétonnier, la ville-centre, elle a envie de consolider ses pistes cyclables, mais juridiquement, la gestion des transports et de la circulation qui ouvre ou qui ferme les robinets des voitures, c'est le canton, c'est pas la ville. Okay. Et le canton, lui, a une assiette territoriale différente des intérêts peut-être aussi politiques ou financiers d'ordre différent. Et finalement, ces tiraillements que je vous en décrivais quelques-uns tout à l'heure, on est en plein dans ce tiraillement-là, à la fois de satisfaire une demande politique, hein, on l'a vu, la votation cantonale sur le libre choix en matière de transport, qui voulait dire en négatif, laissez-nous rouler en bagnole et fichez-nous la paix, elle a été votée parce que la majorité du canton est à droite et que cette partie, enfin, je simplifie, mais c'est pas si loin. Parce qu'au niveau cantonal, il y a une légitimité politique à dire on veut aller en bagnole partout. Voilà. Donc si vous voulez changer ça, il faut changer le rapport de force.
C'est par rapport à ça.
Il y a eu un conseiller d'État qui était responsable du transport, qui était pro-voiture. Et il y a du coup aussi, il va défendre un certain nombre d'intérêts dans ce sens-là. Mm-hmm. Il y a un certain nombre de lois qui ont été passées à ce moment-là et qui en héritent. Et qu'on ne peut pas maintenant, comme c'est une loi, ne pas l'appliquer. Et donc, c'est ça, c'est votre pouvoir, c'est votre vote.
Mais on est d'accord que les lois, ça peut changer.
Mais les initiatives, alors, justement. Parce que moi, je pensais à faire une initiative, justement. Ouais. C'est un peu le but, hein.
Mais c'est
ça,
au
départ, de créer une initiative, justement, une ville sans voiture. Alors, j'en ai parlé à un politique, il m'a conseillé, justement, de commencer par la ville. Parce que si on prend la ville et l'État, c'est... Mais si on... Moi, je pense aujourd'hui, sans campagne, sans rien du tout, que... Plus d'un Genevois sur. Que ça passerait. C'est une initiative qui passerait aujourd'hui. J'en ai la conviction intuitive. Mais après, bien sûr, hein, dès qu'il y a la campagne et tout, puis ça passerait plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça passerait. Qu'est-ce qui se passerait alors si tout à coup, oui, que le peuple genevois vote vraiment avec. Ça serait le générique, hein, Genève sans voiture, et qu'on doit remplir. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce ne serait pas, pour finir, un test de démocratie? Que, en fait, non, parce qu'il y a les lobbies qui diront tout simplement non. Et on l'a vu par rapport à ce qui s'est passé avec l'initiative, là. Des voix, plus de voix vertes et machin, tout chouette, et il n'y a rien qui se fait. Ou peut-être à long terme, je ne sais pas.
Il y a eu le même vote dans les années 90 sur les pistes cyclables, et puis pistes cyclables au centre-ville, encore loin du compte.
Et je me suis posé la question si, justement, une telle initiative, de toute façon, ce serait niette. C'est en fait. Voilà. Alors je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, si admettons dans une dynamique positive, comment on peut imaginer?
Je pense que c'est important, ce type d'initiative, parce que ça permet de créer des positionnements au sein du Conseil d'État et aussi de créer le débat. Parce que si vous, ils doivent vous répondre par rapport à ces initiatives. Et ça crée aussi des réactions à l'interne, des services, des prises en compte, peut-être des sensibilisations, parce que vous allez voter et donc eux, ils ne peuvent pas non plus ne pas prendre compte des demandes ou des volontés qui... Aujourd'hui, vous avez vu, hein, M. Gers a été élu avec 34 000... avec le vote des 34 000 personnes. C'est rien du tout par rapport à la taille du canton. Donc, en gros, si vous faites aussi, c'est aussi le nombre de votes que vous avez réussi à avoir de ces initiatives, ça fait le poids aussi politique. Et vous serez mieux écouté par rapport au nombre de signatures que vous arrivez à récolter.
Parce que je pense qu'il faudrait commencer par ces dimanches, déjà commencer par ça.
Oui. Une initiative qui impose au canton de faire des dimanches.
Voilà. Ouais. Parce que pas forcément je me rappelle à l'époque, c'était dans les années 70 ou 80, on a vu ça plusieurs fois. Mm-hmm. Ça plaisait à tout le monde. Tout le monde était enchanté parce qu'on pouvait aller pique-niquer au bord de la route.
Ouais, puis en plus, en ce moment, on est dans une ouverture de conscience au problème climatique où un homme politique. On ne peut pas défendre une loi qui met plus de voitures, à moins d'être vraiment soutenu par des lobbies.
Ça se passe.
Il y a des lobbies. Hein. Les lobbies comme ça, ils existent. Hein. Ils ont même un nom en trois lettres, TCS, quoi, c'est clair. Et le TCS a une audience nationale, voire même une espèce de petit parfum culturel années 50, qui est assez c'est le truc gentil, c'est les gentils, le TCS. Et puis ils disent, ah non, mais il faut être gentil, vous n'allez pas supprimer le droit de se déplacer d'un coin à l'autre. Et puis ils ont des avocats, ils ont des juristes, ils ont des financements, et ils y vont. Et ils envoient des tout-ménages dans la Suisse entière. Ça coûte une fortune monstrueuse. C'est le lobby bagnole extrêmement puissant. Genève est la ville du salon de l'auto.
Moi, je pense aussi que, vous permettez, je pense aussi que, en plus de ce frein que constituent les lobbies, il y a aussi une autre difficulté à laquelle pourrait être confrontée cette volonté de changer les choses, notamment par rapport à Genève. Dans d'autres villes de la Suisse, ça pourrait passer plus facilement. Moi, je le dis depuis ma posture, je vois la Genève internationale. Parce que la Suisse en elle-même déjà, et on va dire du point de vue international, est un pays qui a connu la signature de plusieurs conventions. Et du point de vue politique et diplomatique, il y a aussi des obligations et des devoirs qui vont avec. Donc Genève, c'est d'abord le siège de plusieurs institutions, de telle sorte que quand, du dehors, quand on voit Genève comme un certain symbole. De telle sorte que quand vous allez à Lausanne ou à Neuchâtel, la réalité n'est pas vécue de la même manière. Et cette volonté peut être mise en application plus facilement dans ces villes. Mais à Genève, il faut d'abord compter avec, je vais dire, les locaux, mais en plus les étrangers qui, chaque année, dont le nombre augmente chaque année. Vous voyez, selon qu'une mission diplomatique a une taille moyenne ou grande, chaque année, il y a des gens qui sont affectés dedans. Et comment est-ce que vous voulez... C'est vrai, s'il y a des pratiques dans un pays ou dans une ville, quand ils viennent, ils sont obligés d'aller avec. Mais on n'a pas le moyen politique ou juridique de leur imposer un certain fonctionnement. Donc moi, je trouve que les idées, elles sont vraiment belles. Et moi-même, je les épouse en tant que... une personne qui défend hautement, comment dit-on, les valeurs qui vont avec le changement climatique, préserver la nature. Mais il y a des réalités auxquelles on est obligé de faire face et de voir, plutôt de commencer par réfléchir à comment résoudre ces problèmes. Parce que si vous voulez imposer des choses, que dirons-nous donc que devient la Genève internationale? Il y a les diplomates, il y a les fonctionnaires, il y a un peu de tout. C'est une réalité aussi. Et qui fait que la volonté d'aller de l'avant est plus ou moins freinée.
C'est encore un de ces tiraillements que je vous évoquais tout à l'heure. Il y a un côté, certaines organisations internationales ou certaines personnes à l'intérieur qui tiennent, comme la prunelle de leurs yeux, à leur place de parking devant leur bureau et puissent. Ils ont les moyens, en termes de pouvoir et d'influence, de l'obtenir. Après, on voit l'OMS, on voit l'OMPI, qui sont en train de mettre en place des plans de mobilité à grande échelle, qui réduisent leur place de stationnement. Ils sont, et c'est des acteurs, on ne peut pas faire pression sur eux, c'est des acteurs qui doivent venir un petit peu petit à petit. Et je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps, et il y a quelque chose qui est en train de se passer chez eux. Je crois qu'ils ont maintenant un peu plus... ils se sentent un peu moins à l'aise avec leurs immenses nappes de stationnement... qui va avec une carrière de privilèges qui font qu'ils restent aussi dans leur monde. C'est versus, c'est quelque chose qui péjore un petit peu le rapport entre tout ce monde des organisations internationales et le Genevois. On voit les bars spécialisés au paquis où ça cause anglais, puis le serveur parle même pas français, et puis il n'y a que des expats, et puis tout le monde se retrouve entre soi. Dommage. Je pense qu'il y aurait un intérêt de part et d'autre. Parce qu'on se cause davantage, mais pour se causer, il faut sortir le nez de son portable et sortir ses fesses de sa voiture. Autrement, on ne se cause pas. Et
après,
c'est dommage.
Ça, c'est aussi une politique nationale parce que la plupart des fonctionnaires de ces organisations internationales ou de ces missions diplomatiques ici viennent d'un pays. Moi, je donne l'exemple de la mission d'Allemagne à Genève. Ils vont quasiment tous en vélo. Vous voyez ? Et alors même que, je suppose, je n'ai pas trop cherché comment ça fonctionne là-bas, mais j'imagine que ça ne leur a pas été imposé. Ils ont ramené une pratique de chez eux à Genève, de l'ambassadeur jusqu'au, je vais dire pratiquement le dernier, parce que moi je les vois souvent, ils vont en vélo. Donc, c'est ça.
Formidable, c'est l'exemple. C'est aussi probablement parce que l'ambassadeur y va, que les autres se sentent tout d'un coup un peu couillons de ne pas y aller aussi.
Donc c'est après, c'est au chevet
Allemagne.
Que tout se...
Allemagne, mais c'est culturel chez les Allemands.
Ouais, ouais.
Mais je sais pas, j'ai vu des statistiques qui montraient qu'à Genève, dans les déplacements pour acheter de l'alimentaire, les cantons, 50% du canton se déplacer en vélo pour faire leurs achats. C'est ce qui est assez incroyable pour une ville, métropole comme Genève. Mais après, il y a aussi une question de... En ville, c'est assez assimilé. Mais moi, j'habite à Bellevue. Et je viens, je laisse ma fille à l'école et j'ai les chariots. Et les gens continuent à me voir comme une extraterrestre. C'est... Ah, oh, mais vous êtes courageuse, oh là là. Et c'est presque, ils me regardent comme une, je sais pas, un écolo-bobo. Ouais. Mais c'est nous.
J'habite à Bellevue aussi. Mais le soir et le matin, c'est le salon de l'auto sur la route. Hein.
Ah bah oui.
C'est oui, que des grosses bagnoles. Et ça, tout seul dans leur voiture.
Oui, bien sûr.
12 km, c'est pas énorme.
C'est tout ce paradoxe de l'extraordinaire attractivité économique et d'image de Genève. Des villes donnant leur âme pour avoir un dixième de ça. Nous, on a tout. Et du coup, ben, voilà, on crée aussi des systèmes où on abuse de nos égos d'une certaine façon. C'est dommage.
Ouais, j'avais l'impression, parce que, au début, parce que, ici, il y avait ce côté, la plupart des déplacements en voiture, c'est 5 km. Puis je me disais, mais c'est les courses. C'est les gens, ils vont faire leurs achats. Justement, quand s'il y a le week-end ou il y a une journée sans voiture, ils ont 4 caddies pleins. Et puis comment on les transporte avec nous? Du coup, je me suis dit, c'est ça qui vient, que tout le monde prend la voiture pour aller faire les achats, du coup, a besoin de parking. Et ce que je voulais dire aussi sur le quartier dont vous parliez, qui a tout en sous-sol, les gens partent en voiture, du coup, ils vont faire leur course en voiture, bien ils ne voient plus.
Ah ouais.
Alors, comment c'est possible?
Il n'y a pas de commerce, surtout.
Mais voilà, mais comment on peut
revenir? Ouais, c'est terrible.
Bon, ouais, tout en vrac, mais aussi l'autre jour j'ai vu un film d'une Genève dans les années 60 hein, où il y avait un grand parking à sortir du pont du Mont Blanc côté Eau Vive, et je pensais à deux parkings aussi qui existent encore côté Eau Vive qui sont juste au début de la rue Pic des Rochemont. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une possibilité de les annuler, de faire que ces parkings vont disparaître, on va faire une maison ou pas un centre commercial nécessairement, mais quelque chose de convivial? Est-ce qu'il y a une possibilité de changer un petit peu ce genre de
recycler,
zone?
Recycler un parking souterrain. Comment on pourrait recycler un parking?
Pas souterrain, déjà.
Une salle de répétition pour les musiciens.
Non, mais souterrain, c'est une chose, mais déjà ceux qui sont au niveau du terrain, parce que ces deux-là, ils existent. Il y a un qui
mais va... c'est à l'extérieur, tu
dis. Oui, ils sont d'accord. Tout début de la
surface.
Oui, mais ça, c'est pas si compliqué.
Est-ce que c'est possible de le faire?
C'est l'obstacle que je vous racontais tout à l'heure de la rentabilité de ces structures.
Mais du coup, là, la
ça
ville ne peut pas...
de l'argent.
Ouais, mais quand on dit qu'ils vont exproprier les, je sais pas, toutes ces zones agricoles, maintenant la ville va faire des logements là-bas au loin, et puis là, il y a des votations et tout ça, ça ne peut pas passer ça en votation?
Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a quand même une évolution hein, culturelle dans les pratiques cantonales. Tu m'arrêtes aussi, Giovanna, si tu me sautilles.
C'est tiraillement ville-canton. Il y a aussi. Mais il y a des héritages là.
C'est pour ça qu'il y a une table, une séparation.
Maintenant. Les taux de stationnement préconisés à l'époque au Genêt, le canton n'y va plus, il les a baissés. Il y a eu une évolution des normes aussi qui est très importante, c'est qu'on a imposé aux nouvelles constructions des taux de stationnement vélo énormes.
Oui.
Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment bien. Et s'il y avait un choix à faire entre les deux, sur des situations urbaines type bas de la rue Voltaire, il faut plein de vélos là-dedans, pas deux bagnoles. C'est ridicule. Ça, c'est vraiment une question de bon sens. Et maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le canton accepterait cette configuration-là.
Oui.
Mais il y a, quand ça s'est fait, non. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Maintenant, ça a bougé. Donc, tout ça bouge, tout ça évolue. Mais ça prend du temps.
Ça prend,
voilà. C'est ça, une ville bouge lentement, mais bouge. Une ville, c'est un organisme vivant. On l'aperçoit souvent comme immuable. On parlait de ce bâtiment. Tiens, est-ce qu'il est totalement d'origine ou est-ce qu'il a évolué ou pas? Mais tout dans l'univers de ce bâtiment, il a tout vu ce bâtiment. Il a été à la campagne à un moment donné, cette implantation était rurale. Hein, le domaine de Voltaire plus haut, c'était purement rural. Maintenant, c'est plein centre-ville. Et tout ça a bougé.
Et aussi cette complexité, chaque fois qu'on touche quelque chose en ville, et vu qu'on transforme des choses en ville, des renouvellements urbains, c'est une complexité, la itération des choses. tout ce qu'on doit prendre en compte, les risques, l'air, les bruits, et des, on a parlé beaucoup de compromis, les compromis suisses, mais il y a des moments qu'il faut arbitrer. Mais est-ce qu'on a le courage d'arbitrer?
Oui.
Et c'est ça aussi, cette difficulté de travailler dans cette complexité en composant avec tout, mais des fois en ayant le courage de dire non.
Mais là, il y a une structure qui peut vraiment venir épauler ça, c'est la TE. L'Association des Transports et de l'Environnement.
Ah, elle le fait.
Ils,
hein,
sont vachement...
Ils sont omniprésents. Ouais, ils sont, justement, dans ces tiraillements que je vous évoquais tout à l'heure, c'est ce lieu du frottement, de la bagarre.
Ouais.
Ils y sont.
Et là, justement, eux, ils ont cette sorte de structure qui fait qu'ils y vont, quoi. Et puis, c'est pas un individu, c'est pas... voilà. Ils sont bien. Ils ont aussi, ouais, ils ont la structure qu'il faut pour ça.
Mais ouais, moi, ce que je trouve qui freine l'évolution, c'est quelque chose dont tu avais abordé, Pierre, c'est le fait que le bien commun, tu as parlé du bien commun, mais il se réduit énormément parce que tu parles des places de parking qui sont considérées comme privées maintenant, même si elles sont sur soi-disant le domaine public. Moi, je le vois à plein de niveaux ici dans notre structure. On nous a dit en janvier dernier, le ramassage des poubelles, c'est payant maintenant. Donc c'est devenu un truc privé. Et toutes ces choses privées font que ça empiète sur le bien commun et ça freine toutes les évolutions parce qu'il y a toujours des intérêts privés qui font qu'ils arrivent en disant oui, mais moi c'est mon gagne-pain pour une place de parking, c'est mon gagne-pain pour ramasser des poubelles, c'est mon gagne-pain. Tout est donné à des privés parce qu'on délègue à des sociétés privées tous les services qui étaient autrefois publics. Et du coup, ces intérêts, eux, ils ont une force de c'est pas spécialement à Genève, la Suisse, où c'est vraiment commun, c'est une tendance mondiale. Mais ces intérêts privés, ils s'opposent à toute évolution parce qu'ils ont une petite combine, on pourrait appeler ça, qui fait qu'ils vont dire, ben, ils vont opposer leur gagne-pain à une évolution, quoi. Et c'est une multitude d'intérêts privés qui freinent, je trouve, l'évolution, voilà, et qui empiètent sur le bien commun.
Et puis de plus en plus, c'est un truc qui avance. On le voit bien.
Et c'est là que ça devient, sur ce point-là précisément, extrêmement politique. Je dis souvent, je l'ai dit à madame tout à l'heure, mais je le redis encore, en plaisantant, mais à moitié, que l'urbanisme, fondamentalement, c'est une intervention de gauche, parce qu'elle implique que l'État vienne se mêler des affaires des privés. C'est ça l'urbanisme, c'est dire à un privé non, votre bâtiment vous n'allez pas le pousser jusque là, vous devez prendre en compte le fait que les logements que vous construisez, ils vont nous coûter en école, ils vont nous coûter en accessibilité, et donc vous devez amener une forme de plus-value sur le territoire avec votre construction, et c'est ça qui se négocie dans l'urbanisme. Mais c'est fondamentalement une intervention de l'État au sens le plus large du terme, hein, ville, canton, etc. Mais c'est une intervention des pouvoirs publics sur les affaires privées. Et ça, c'est le contraire de la doctrine libérale qui dit que le privé fait tout.
C'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'urbanisme étatique était longtemps une vérification de normes. Et c'est très récent que l'urbanisme est devenu un acte de réaliser des projets, de vouloir créer la ville, de créer des projets, de plans directeurs, d'un certain nombre d'outils où on vient donner un certain nombre de directives, où on s'y lance dans la planification. C'est quelque chose qui, c'est les dernières 20 ans.
Oui.
Donc, c'est des choses qui, faire la ville, c'est très récent. Et c'est ça aussi, on est en train d'apprendre.
Oui, absolument. Et des fois, en apprenant, on se trompe. Ça arrive aussi. Oui.
On parlait avant que beaucoup de personnes prenaient le vélo pour aller faire les commissions. Et qu'il y avait aussi ce problème quand on avait des caddies pleins qu'on ne pouvait pas. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir dans chaque construction des petits négoces, des magasins? Oui, c'est ça, mais à ça aussi il faut penser. Parce que tu fais où des commissions en ville? À la placette?
En étant présent, les gens ils vont amener leurs enfants au sport en voiture. Alors c'est quand même très étrange. Pourquoi on amène des enfants au sport en voiture?
Et à l'école?
Mais si toi tu dois aller au bout du monde, tu vas aller à pied?
Oui, mais il y a tout qui est comme ça. Dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, on le ressent, et moi je le ressens, parce que je suis sensible, qu'il faut remettre les choses à leur place. Oui. On dit d'ailleurs remettre la... C'est comment on dit,
l'église.
Mais il faut... Ça veut dire quoi?
Mais oui, l'église au milieu du village. Il faut prévoir aussi des...
Je vais y revenir. Je vais y revenir.
C'est une
grosse question. Redonner une identité au quartier. Et moi, je pense un projet. Si on commence à enlever les voitures, les gens ils vont rester un peu plus là où ils sont. Oui, moins de déplacements. Oui, l'amour du trajet.
Mais il faut des magasins. Pour acheter le pain.
Pourquoi les gens en bagnole ils ont le moins de temps possible? Pourquoi les gens ils veulent mettre 10 minutes, ils disent qu'ils vont mettre 1h30 pour aller à Verviers alors qu'ils en mettent 1h45 ou 2h? Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est infernal d'être dans une bagnole, c'est juste infernal.
Ou au contraire, magique et merveilleux. Quand on a un intérieur en cuir, somptueuse installation audio, chauffage, clim, les jolis petits joujoux, les petits boutons à tripoter, c'est top.
Et surtout, quand la voiture, elle est dans un trafic fluide. Parce que ça change la perception. Il y a un bouquin de Charles Montgomery qui parle de ça et qui parle justement de ces banlieues dans les grandes villes américaines et de la perception des commuters, quoi, des gens qui font
les
pendulaires, merci. Et ils disent, la perception du trajet quotidien, si c'est 50 minutes et que c'est du trafic fluide, les gens, la voiture, c'est une extension de chez eux et ils se sentent bien. Mais quand c'est 50 minutes de bouchon, d'un seul coup, ça devient l'enfer.
Parce que là, c'était la moyenne genevoise, c'est 20 minutes. Les trajets maison-travail,
20 minutes.
Et c'est ça.
Suivant où on habite, c'est beaucoup plus.
Mais ça, c'est humain. Si on fait la queue à pied, il y a 20 personnes, mais ça bouge et on met qu'un quart d'heure. Ça va, mais s'il y a une personne devant qui a tout oublié, qui va et qu'on met un quart d'heure, ce sera la même chose. Oui. C'est humain, on veut que ça aille à un mouvement.
C'est, en gros, poussez-vous, laissez-moi passer.
Oui, on veut un mouvement qui me convienne. Je veux dire, si je marche et tout le monde marche deux fois moins vite que moi, je vais me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me font chier? Et si tout le monde va à mon rythme, ça ira très bien. Et c'est ça, c'est humain, c'est pas nécessairement la voiture. Les gens, ils sont dans une voiture. Moi, je suis d'accord, moi, j'ai mon vélo là. Mais je veux dire, je suis pas pro-voiture, mais quand on est là, cool et tout, et puis que ça roule, mais... Je mets ma musique, je suis à la cool quoi. Si je veux fumer, je peux fumer dans ma voiture.
Oui.
Je veux dire, voilà, qu'il y a vraiment une question de propriété privée, d'être comme chez soi. Et je peux comprendre ça, mais j'ai l'impression que comment on bloque ça? Justement, on enlève des trucs et puis les gens doivent s'arranger autrement.
On enlève la radio dans la voiture.
Il y a un moment donné où les gens vont se cogner à la réalité. J'ai un copain qui disait, la réalité, c'est ce à quoi on se cogne. Parce qu'après tout, on pourrait avoir ces lunettes de vue virtuelle.
On va pas leur vendre, qu'est-ce que c'est beau à vélo s'ils n'aiment pas ça. Mais peut-être s'ils sont obligés, ils vont dire, ouais, peut-être je vais faire du vélo. Le boom du vélo électrique, c'est ça.
En même temps, si tu reprends de la place dans l'espace public, si tu reprends de la place pour plus de piétons, plus de vélos, peut-être qu'il y a des fils qui vont plus vite. Des fils qui vont moins vite, même pour les piétons, et que chacun y trouve son rôle. Par contre, c'est un point de vue intéressant. Moi, je sais que quand je suis bloqué derrière une personne dans une queue, qu'il y a des problèmes à payer un truc, qui cherche dans son sac, en fait, c'est toujours des moments où je me rends compte que l'humanité, c'est fait de toute cette diversité. Et en fait, moi, ça me sort de moi-même. C'est pas que ça m'énerve, au contraire. C'est ce qui me permet de me rendre compte que. Il y a tellement de choses différentes dans ce monde
que du coup, c'est jamais m'énerver derrière une queue,
ou alors c'est l'occasion d'une interaction auquel j'aurais même pas envisagé d'aider une personne à faire un truc et ça change ma journée quoi.
C'est la fameuse plus-value sociale.
Clair, mais du coup il faut des quartiers quand même vivants, ce que tu disais. Des quartiers, là,
des jeunets.
C'est moi. Tout a été fait, ok, tu prends la voiture, tu pars, tu vas dans. Allez, au grand centre commercial, on l'a fait là-bas. Mais alors, ça oblige les gens à penser.
C'est là, en bois,
elle est chouette. Oui, en bois, ça va.
Non, mais c'est les lieux aimants.
Je sais pas, vous. Non,
c'est général, le climat.
C'est aussi Genève. On voit quand même les manques d'espace public dédié aux gens ouais. d'une manière assez frappante pour une ville comme celle-ci. Et c'est ça, je pense qu'il ne manquerait pas grand-chose pour récupérer et c'est utiliser ce lieu. Parce que maintenant, tu sais pas qu'on est tellement fiers, si on va à l'été, ils sont débordés.
Ouais.
Et donc, ça démontre qu'on est à saturation de ces espaces, qu'il va falloir créer d'autres. Mais pour créer d'autres, sur le lieu déjà construit, ça veut dire quoi?
C'est l'engouement des ruelles à vous.
Avec les surélévations, maintenant, tout ce qui se construit à Genève.
Comme les
je sais pas, moi j'étouffe. Moi j'étouffe.
On le voit bien sur le plan, là, qu'il a fait.
J'ai connu Genève autrement, moi.
Il représente, il dit qu'une place de parking, c'est 12,2 mètres carrés. Et il y a 220 000 places. Et on voit bien l'espace que ça prend. Et vous, tu disais tout à l'heure qu'une voiture qui roule, ça prend encore beaucoup plus
de place. Ça, c'est Durin qui disait.
Voilà, c'est ce que vous disiez. Une voiture qui roule, ça prend encore beaucoup plus de place. Et c'est ça qu'on oublie, c'est l'espace que ça prend. C'est la nuisance, c'est le son. C'est-à-dire quand vous regardez le lac, vous allez au lac de Joux, par exemple, insupportable. C'est une résonance de bagnole, c'est-à-dire que c'est une réverbération, et ça porte. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ça prend énormément d'espace. Une voiture qui roule, ça prend, moi j'avais appris à l'école, ça prend en tout cas déjà 200 randonneurs, le bruit de 200 randonneurs. Autant d'espace que 200 randonneurs. Et puis après, le son et tout ça.
Voir en trois dimensions. Voilà. Parce que la fumée monte, parce que le bruit monte.
Voilà.
Et c'est hallucinant. C'est un volume.
Et je pense que ça, il faut vraiment se dire aujourd'hui, c'est terminé, qu'on doit avoir un meuble pareil pour déplacer son cul uniquement. Et ça, je pense que ça, il faut vraiment. Et c'est un peu le but aussi de cette exposition, il faut qu'on arrête avec ça, c'est terminé, quoi. Il faut vraiment qu'on arrive à autre chose. Et tout l'espace, on se rend compte, l'espace qu'on pourrait récupérer, justement. Tout cet espace qu'on peut récupérer, toutes ces avenues où tout à coup les gens y marchent, le rôle des anciens par rapport à tout ça.
Et les tailles, les trottoirs, parce que de plus en plus la ville, elle s'élargit. Et en centre-ville, on fait la rue de Beaune, des trottoirs magnifiques, mais on va vers Lier, c'est 1,50 m, 2 mètres.
Ou sous la gare, 20 cm.
Ah, incroyable! On ne sait pas faire.
Non, c'est vrai.
Mais vous trouvez normal qu'on fasse venir toujours plus de monde à Genève? Plus on construit, plus il y a du monde qui arrive ici. Est-ce qu'il n'y a pas saturation?
Mais c'est toutes les villes comme ça.
C'est toutes les villes comme ça, et les villes se battent parce que nous, on a la chance quand même ici d'avoir. Alors, moi, je suis au chômage, j'ai une activité aussi d'indépendant, mais globalement, je suis au chômage, je cherche un boulot. Et faut en trouver du boulot. Et c'est quand même l'attractivité économique qui crée des emplois. Donc, on ne peut pas arrêter ce mécanisme, ou alors il faudrait accepter de perdre nos emplois. Il y a une énorme pression sociale aussi. Sur le centre, vous l'avez dit tout à l'heure, on a chassé les pauvres.
Ça fait
partie de l'équation.
Oui, dans les années 70.
Et maintenant, ça a complètement changé. Oui. Je suis quand même en souci pour la jeunesse. Hein, quand je vois les difficultés qu'ils ont pour trouver un emploi. Parce que...
Tu en veux encore un peu?
Ouais, mais là, il y a peut-être un effet aussi.
Je ne sais pas, moi, je sais pas que je suis contre la diversité, mais vous prenez souvent, par exemple, le bus à Genève. Vous entendez
souvent parler français. J'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, donc.
Moi, je me sens des fois plus à Genève. Hein. Et moi, je me pose la question où je me trouve. Écoutez, c'est pas, je veux pas être xénophobe. Mais là, je me pose quand même la question des fois. Si...
Oui, mais justement, parce que aussi, il y a peut-être aussi. Beaucoup de gens qui ont rien à faire ici, peut-être.
Oui, mais la fréquentité aussi... est tellement grande. On est un
oui, mais avant, on pouvait pas faire ça.
C'est dans le sol.
On est le meilleur payé à Genève qu'à Berne, qui est la capitale. On est meilleur, on est payé comme Zurich, mais même si on change de ville par rapport en Suisse, Genève est plus attractive.
Oui, mais le problème n'est pas là.
Au salaire,
le problème
n'est pas là.
Ah oui, c'est bon, 30% moins, en Lombardie, en tout cas, 30% moins en Berne.
Ah oui. Oui, c'est pas étonnant, ça.
Non. Moi, je suis assez pour
les postes similaires.
Bon, après, il faut voir ma
vente. J'ai ici.
Oui, c'est ça.
Bah, il y a un autre truc, je pense qu'il y en a une autre.
Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant à propos des gares. Je vous ai dit, oh, il y a des gares, il faut créer des gares.
Elles se créent, elles sont en train de se construire.
C'est pas de
mais si vous prenez par exemple l'exemple de Paris, il y a l'air de l'Est, il y a du Nord, il y a l'Azard. Mais qu'est-ce qu'il y a en ville? Un immense bordel aussi.
Merci.
Bon, Paris, c'est une échelle tellement énorme. Et eux, alors,
c'est là. Oui, la même chose. Un petit peu. Le Grand Genève, le Grand Paris. C'est ça. Vous avez une concentration de gens qui devient incroyable.
C'est aussi ce qui fait la valeur. C'est pour ça que je commençais par les échanges de valeur, la création de valeur. Un emploi, c'est une valeur. L'argent, c'est une valeur. On a un emploi voilà. Pour gagner de l'argent. On brasse de la valeur avec de l'échange.
Mais attends, c'est pas qu'on gagne d'argent, c'est pas que les banques. C'est Genève, c'est un endroit où on définit les prix du baril de pétrole pour tout le monde.
Oui, les matières premières.
C'est la négociation de tous les pierres précieuses. C'est fait à Genève. Il a un état d'éléments qui il a les économistes qui disent si on touche à Genève, on dans les mêmes minutes, on touche l'économie du monde entier.
Ah ouais, à ce moment-là, ouais.
Ah, c'est bon.
Comme quoi, moi je trouve que c'est d'autant plus une ville qui doit être dans les prochains temps, par rapport à ce qui se passe climatiquement, une ville qui doit montrer l'exemple.
Oui, pour moi c'est ça.
D'une façon éthique.
Oui, parce que nous, on a les moyens.
Ouais, on a les moyens.
On a l'éducation, on a les... Voilà. On a la conscience,
parce que sinon,
on a le confort, voilà. On peut se dire je peux.
Et on doit alors justement avoir cette volonté de d'aller dans cette mouvance locale, économie circulaire, tout ce qu'on... Et en même temps rester international pour garder cette éthique, parce que certainement un autre public viendra à Genève par rapport à tout ce qui va se passer sur Terre. On veut plus un EMS qui nous ment, qui soit. On veut une véritable éthique puissante. C'est ça qu'on veut demain.
Oui,
et je pense qu'il y aura beaucoup, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de chamboulements à Genève. Si elle prend les devants, si elle veut se développer dans ce sens-là, parce que ça va lui échapper sinon, si elle veut vraiment se développer dans ce sens-là, elle doit aller prendre des mesures radicales, elle doit vraiment changer.
Oui.
Et ça, je pense que c'est un... pour moi, cette idée de Genève sans voiture, moi j'ai toujours vécu dans une ville qui était régie par la voiture, j'ai jamais connu autre chose. Et j'arrive à l'imaginer. Je peux imaginer justement tout à coup une décision très locale. C'est très local. Ça ne veut pas dire que à Paris, ça devient une ville sans voiture, mais qu'une ville comme Genève décide de venir sans voiture, alors qu'il y a le salon d'auto. Ce courage, je pense que ça peut aller dans un...
Je pense, c'est comme mon intervention, je ne pense pas qu'on va pouvoir éliminer la voiture, mais on va pouvoir... On va pouvoir la diminuer, trouver d'autres alternatives, de créer d'autres moyens, d'autres manières de faire.
Mais la ville a aussi besoin de ces gens.
C'est vraiment l'hôpital
après.
Il faut une maturité pour les infirmières. Je sais que les infirmières aujourd'hui, c'est presque des médecins parce qu'elles ont. Mais quand même, avant, à 18 ans, tu faisais un apprentissage de 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus, Croix-Rouge, les infirmières Croix-Rouge. et tu ne devrais pas avoir une maturité. Oui, mais on moi, exagère aussi.
Par rapport à la ville, à
enfin, des moins de 30 ans.
C'est pour nous prouver votre mobilité, votre capacité à être mobile, c'est ça que
tu veux. Par rapport à la ville,
c'est génial. C'est l'exemple typique.
Permet à mobilité avec Genève et la frontière et la France voisine que tu peux aussi acteur.
Avec une échelle de temps très humaine.
Et puis que l'idée de dire, on va minute. Mettre les barrières là. Alors après, il y a des trucs de loi à plus en plus.
On va faire des petits sketchs.
Mais attends. Oui. Juste pour dire que les gens qui habitent à côté, bah, les Suisses vont habiter en France parce qu'ils ne peuvent pas trouver une maison ici, etc. Et ça, c'est, on est ensemble. Moi, j'ai
puis les Français qui habitaient avant près de la frontière sont obligés d'aller à 60 km. Enfin, c'est trop cher pour eux. Tu sais, il y a...
Justement,
c'est là où
au lieu de se dire, OK, il y a un hyper-centre, et puis il faut que tous puissent arriver avec leur voiture, et puis ça va devenir super cher là, mais il faut encore une plus grosse voiture et des plus grosses routes, et comme ça on peut être encore plus loin. Au lieu de dire ça, on va dire non, il faut que ça circule, et puis peut-être les choses vont un peu changer si on voit la chose différemment.
Il y a vraiment, et j'ai envie d'enchaîner sur ce que
on peut se tutoyer. Hein.
Oui, bien sûr. Sur ce que tu dis, sur le, j'évoquais tout à l'heure le masque de réalité virtuelle 3D. Admettons, voilà, je mets mon masque et je vois un magnifique champ prairie fleurie avec des coquelicots, comme on voit au début de l'été. Oh, super. Je me lève, je veux aller dans le champ et je vais me prendre la table dans les jambes. Et c'est ce que disait mon pote, la réalité, c'est ça, on se cogne. Tant que je croirais que je suis dans un champ, je serai dans un champ. Le jour où je veux me lever et aller dans le champ et que je me prends la table dans les pattes, je vais toucher la réalité. Et la question de la subjectivité, de la perception des transports que j'ai évoquée tout à l'heure est fondamentale par rapport à ça. Parce qu'on s'imagine qu'on a l'outil pour se déplacer d'un point A à un point B, en plus l'outil hyper performant, parce que plutôt des grosses bagnoles et des machins qui vont vite. Donc en gros, je pourrais faire Grand Pré plein palais, par exemple, en 3 minutes avec ma grosse bagnole, enfin j'en ai pas un, mais j'ai aussi une moto, je suis quand même pas un saint, mais je pourrais faire la même chose avec ma moto, en me disant théoriquement je peux aller à plein palais en 3 minutes, aller à fond, et puis voilà. Et puis, ben non, je vais m'embouteiller, je vais me retrouver coincé dans des feux, et du coup, ce rêve, ce fantasme que je m'étais fait, ma lunette de réalité virtuelle, point A, point B, 3 minutes, et ben je vais m'y cogner. Et à un moment donné, il va falloir qu'on donne aussi aux automobilistes l'opportunité de se cogner, de se conscientiser que la bagnole n'est pas le moyen de transport idéal pour aller du point A au point B quand on est en milieu urbain.
Il y a une œuvre là qui est dans l'exposition, c'est des plots, c'est ces plots qu'ils mettent pour bloquer des rues pour les terroristes.
Ouais, ça fleurit.
Qui ont été utilisés par exemple dans les géants qui sont venus à Genève ou ailleurs. Alors il l'a mis là, et puis dans une autre version, il a mis des gens qui passent à côté. C'est cette réalité-là. Je veux dire, à un moment donné, si on prend des actions, on dit voilà, ça sera plus possible, et les feux sont là, non, on va pas mettre ces deux places de parking, on va mettre des places de vélo, etc. Ben, les gens, ils vont dire, ouais, bon, ok, peut-être là, je peux pas aller, etc. Et puis si on réfléchit bien, parce que par contre, pour justement le quartier des Jeunettes.
Jeunet.
S'il y avait des magasins, des trucs, des machins vivants, les gens diraient, bon, ben, je ne prends pas une voiture parce que je peux acheter mon truc.
Alors, le pire, c'est qu'on a essayé. Et j'ai bossé dessus dans les années 80. On a prévu les commerces. On a dit aux constructeurs, vous mettez un logement, vous cassez deux maisons, ok, vous construisez un immeuble, plein de logements, plus super. Et au Ré, faites attention, vous nous mettez une belle arcade, etc. L'ennui, c'est que ces quartiers mutent relativement lentement et que le temps qu'on passe du quartier de villa au quartier d'immeuble, ça prend une vingtaine d'années. C'est comme ça. Ça doit être propriétaire par propriétaire. Ça prend du temps. Et du coup, les arcades, les premières arcades qui ont été construites, les gens sont venus nous voir en disant « Écoutez, vous nous avez imposé une arcade, c'est sympa, mais il n'y a personne ici. Ça ne tombe pas. Il n'y a pas un commerçant qui va gagner un franc en installant quoi que ce soit ici. » Et finalement, c'est devenu des agences de voyage, des cabinets médicaux, ces horribles et fameuses vitrines opaques qu'on a tous dans la tête.
Et finalement, ben voilà, on a un peu loupé ce quartier.
Disons-le.
Après, il reste quand même un truc, c'est que la bonne intention de l'urbanisme, elle mérite de survivre. Parce que peut-être que dans 30 ans, la même arcade qui a périclité à son début, ben, pourra peut-être revenir à quelque chose d'un peu plus intéressant. Au moins, on aura créé la boîte. Et ça, c'est déjà un acquis. Mais il y a toute la question aussi de ce que disait madame sur la question des commerces et de la quantité de services, d'équipements qu'on a au centre-ville. Alors, équipements, on est gâtés. On a des écoles, on a des collèges, on a des cycles, on a des piscines, on a des lieux culturels, on a pas mal de choses en centre-ville. Mais le service commercial, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est assez évident maintenant, on appelle ça les dépanneurs. C'est devenu le standard commercial. Et ben voilà, au Paquis, tu sais, au Paquis, on a une explosion de dépanneurs. La moindre arcade libre devient une arcade de dépanneurs. Et du coup, il y en a 3, 4, 5, les unes après les autres, mais qui n'apportent plus rien en termes de contribution à l'espace public et à la vie sociale chez nous. Mais pendant ce temps, sur nos portables, qu'est-ce qu'on fait? On commande chez Amazon. Ben ouais, il ne faut pas pleurer que les... Enfin, moi non plus. Je trouve ça abominable, Amazon. Mais c'est devenu un phénomène sociétal.
Et encore en Suisse. C'est ça qui était assez impressionnant. C'était que dans les taux de consommation suisse, l'Internet, c'était même pas 10%. C'est
ah ouais
impressionnant. Ah, Suisse, non, à Genève.
Mais ça reste en croissance quand même,
ça reste
de
en
façon
croissance.
Solide. C'est et puis, il n'y a pas Amazon, mais il y en a d'autres, il y a Galaxus.
Alors, on vous souhaite une bonne soirée.
Ouais, merci à vous de votre intérêt, c'est une super chouette discussion. Moi, j'ai vraiment pas perdu mon temps, que j'ai eu du plaisir.
Merci. C'était
la prochaine fois.